Chapitre 84. Après de longues recherches, Adessa avait enfin retrouvé ce maudit sorcier en chef. Bien caché, il faisait profil bas, mais ça ne durerait sûrement pas. Comme elle, il n'était pas du genre à renoncer. À coup sûr, il savait qu'elle le pisterait jusqu'au bout du monde et jusqu'à la fin des temps. Malin et puissant, il se comportait pourtant parfois comme un idiot, une faiblesse que la Morassite n'avait pas. Au fil d'une interminable poursuite, Adessa s'était aperçue que cette affaire allait bien plus loin qu'une chasse à l'homme. Entre elle et Maxime, c'était la guerre, avec son lot d'escarmouches, de manœuvres tactiques et de priorités stratégiques. 20 jours durant, Adessa avait perdu la trace de sa proie. D'instinct, elle avait continué à avancer en aval du fleuve, certaine que le sorcier en chef irait par là. Dans certains domaines, il manquait cruellement d'imagination. De plus, il connaissait aussi mal qu'elle la topographie de la région, mais tous deux, ils savaient que le chasse-corbeau finissait par se jeter dans l'océan, l'amorce d'une direction quand on était perdu. Avec la puissance de son don, Maxime aurait pu s'approprier n'importe quelle cachette, voire en créer une et l'envelopper d'un mini linceul afin de s'isoler du monde. En se montrant patient, il se serait mis hors de portée d'Adessa qui aurait fini par reprendre le chemin d'Ildakar. Mais le sorcier en chef se vautrait dans l'arrogance et la paresse. Même s'il s'était lassé de l'existence futilement hédoniste qu'il menait à Ildakar, le royaume de l'extravagance gratuite, il n'avait rien d'un aventurier et chérissait son petit confort. Du coup, il avait sûrement jeté son dévolu sur une autre agglomération où il pourrait, dans un refuge confortable, forcer des gens à prendre soin de lui. Bref, ce qu'il avait fait à Tarada. Dans un village nommé Ruisseau de Gand, la Morassite décida de mener sa petite enquête. Mais si elle se pointait dans son étrange tenue de cuir, avec la peau couverte de runes, elle ferait sensation et quelqu'un risquait de parler d'elle à Maxime s'il était vraiment là. Cachée dans les roseaux, Adessa observa les allées et venues dans le village. Au crépuscule, un canot avec un seul passager apparut devant elle. À la proue, remarqua la Morassite, un panier plein d'écrevisses laissait penser qu'il s'agissait d'un pêcheur. En tout cas, l'homme portait un manteau à capuche rapiécé qui conviendrait parfaitement. Avançant dans l'eau, Adessa attendit sa proie. Incapable de la voir à cause du soleil couchant qui l'éblouissait, le type couina de terreur quand elle lui bondit dessus. Un dragon des marais devait-il craindre? À tort, parce que la Morassite était bien plus dangereuse que ces bestioles. Adessa tira le pêcheur de son canot, le ceintura et l'immobilisa en pinçant un nerf bien précis dans son dos. Tétanisé, il se laissa tirer jusque dans les roseaux. Bien à l'abri, la Morassite le délesta de son manteau, un excellent déguisement pour elle. Le vêtement accroché à un roseau, elle se pencha sur son prisonnier.
« Qui êtes-vous? Je n'ai rien de valeur sur moi. »
« Ça tombe bien, puisque je ne suis pas une voleuse. Mais c'est moi qui pose les questions. »
Le type s'étrangla à moitié de terreur. Adessa perdit patience. Le captif tenu d'une main, elle saisit son arme spéciale, fit jaillir la pointe et la lui enfonça dans la cuisse. Une blessure mineure n'eût été la magie. Fou de douleur, le pêcheur cria, forçant sa tortionnaire à lui plaquer une main sur la bouche. Après de longues minutes, Adessa retira l'arme de la chair du villageois.
« Ça peut être 10 fois pire et je n'ai rien contre l'idée de te faire endurer ça toute la nuit. » « Bref, à ta place, je parlerai quand on m'interroge. »
Le pêcheur éclata en sanglots.
« Mais vous ne m'avez encore rien demandé !»
Peu friande de polémiques stériles, Adessa décrivit Maxime et voulut savoir si un étranger était récemment arrivé dans le voisinage. Désespéré, le pêcheur aurait volontiers raconté n'importe quoi pour ne plus souffrir, mais la Morassite le prévint qu'elle savait reconnaître un mensonge. Par chance pour lui, l'homme avait vu quelqu'un qui pouvait être le sorcier en chef.
« Il est arrivé il y a quelques jours. Depuis, il vit dans les collines, chez les Fariers, je crois. Le père est bûcheron et on le voit rarement comme les autres membres de sa famille.
Cet étranger, qu'a-t-il fait lorsqu'il a déboulé au village?
Il a mangé et bu à la taverne, puis écouté les conversations. Il n'est pas hostile, mais plutôt renfermé, et il n'a pas voulu dire d'où il venait. »
Typique de Maxime, ça. Observer, planifier, préparer. Merci, mon ami. Tu m'as été très utile. Hélas, je ne peux pas permettre que tu parles de moi à tout le monde. »
Pleine de compassion, enfin pour une Morassite, Adessa tua le type aussi vite et délicatement que possible. Ensuite, elle cacha sa dépouille dans les roseaux où un dragon des marais ne tarderait pas à le dévorer, effaçant l'épreuve derrière elle. Ce travail terminé, elle alluma un feu et fit un festin d'écrevisses en réfléchissant à son plan. Vêtue du manteau, elle entra dans le village avec l'espoir que Maxime s'y montrerait. Pendant cette attente, elle parla aux gens pour essayer de cerner les habitudes du sorcier en chef. Elle en profita aussi pour se faire expliquer le chemin de la demeure des Fariers. Munie de tous ces renseignements, elle vola la longue et solide corde dont elle aurait besoin. Bien sûr, elle aurait pu foncer tête baissée et défier Maxime, mais elle avait déjà essayé ça et il s'en était tiré chaque fois. À présent, elle allait le piéger, le capturer et l'exécuter. En digne Morassite, elle aurait préféré un face-à-face franc et massif. Mais Maxime était un adversaire redoutable et elle ne voulait surtout pas gaspiller la magie du sang qui coulait toujours dans ses veines. Face au sorcier en chef, elle mobiliserait ce pouvoir pour triompher définitivement. Mais le désir d'en découdre n'excluait pas la ruse et la prudence. Maxime n'était pas un ennemi à sous-estimer. Faute de l'écraser en puissance, elle devrait se montrer plus intelligente que lui. Bien qu'il ait choisi une cachette, il ne vivait pas en autarcie, loin de là. Très souvent, il venait à l'auberge, râlait contre la nourriture et la boisson et passait des heures à jouer au dé. Le soir même, l'aubergiste attendait sa visite, car il y avait au menu de la tourte au poisson-chat, un de ses plats favoris. Adessa n'était pas allée chercher plus loin. En plus de sa corde, elle avait toutes les réponses souhaitables. À l'heure du repas, comme prévu, un homme entra en ville et gagna directement l'auberge. Au premier regard, Adessa reconnut la démarche arrogante de Maxime. Dès qu'il croisait quelqu'un, il jouait de son charme, ajoutant un sort de séduction pour être sûr qu'on l'accueillerait bien. Caché dans les ombres, Adessa résista à l'envie de sauter sur sa proie. Comme les fois précédentes, ça risquait d'échouer. En revanche, elle savait que sa cible passerait des heures à manger et à boire, lui conférant un net avantage dont elle userait pour préparer son piège. À la lueur de la lune, elle sortit du village et gagna rapidement la maison qu'un bûcheron avait bâtie de ses mains pour sa femme et ses enfants. Derrière la demeure, elle trouva 5 statues qui lui en apprirent long sur le funeste destin de la petite famille. Devant ces nouvelles victimes du sorcier en chef, Adessa se jura qu'elle accomplirait sa mission. Selon les ordres de Thora, elle tuerait ce salaud et prélèverait sa tête. Elle aurait pu attendre le retour de sa cible, la laisser s'endormir puis faire irruption dans la maison. Mais le sorcier en chef devait certainement placer des sorts de garde autour de la demeure quand il y dormait. Du coup, il serait réveillé et prêt à se battre. Non, il faudrait être plus machiavélique que ça. Sa précieuse corde avec elle, Adessa fit le tour de la maison, cherchant le matériel qu'il lui faudrait. Sur un côté, elle découvrit un gros rondin que l'ancien propriétaire des lieux n'avait pas eu le temps de débiter. Grâce à la corde, et avec l'aide de la magie du sang, elle trouva assez de force pour soulever sa charge et la mettre en place. Quand tout fut prêt, elle se débarrassa du manteau, car elle voulait à tout prix combattre dans sa tenue de Morassite. Avant de crever, il fallait que Maxime apprenne à qui il avait affaire. Sachant qu'elle n'aurait pas besoin de ses armes, y compris la pointe douleur, elle ne dégaina pas son épée courte, mais s'assura que son couteau n'était pas coincé dans son fourreau. Alors que le vent agitait les arbres et les broussailles, certains sons faisant penser à des gémissements de douleur, Adessa attendit des heures dans la forêt. Quand Maxime se montra enfin, il s'y flottait d'aise, le ventre rempli de tourte et de bière. Sans faire montre d'une once de méfiance, il utilisa son don pour allumer à distance les lampes de la maison, puis d'un pas hésitant, il se dirigea vers la porte. Adessa sortit des ombres et se campa sur la position qu'elle avait très précisément calculée. Au-dessus de sa tête, les branches des épicéas oscillaient au gré du vent. Dès qu'il la vit, Maxime s'immobilisa.
« Qu'est-ce que tu peux être collante, toi ?»«
J'ai juré de te tuer. »
Adessa sentit le bouclier que le sorcier en chef venait d'ériger. Mais grâce à ses runes, elle serait hors d'atteinte des sortilèges de ce type.
« C'est Thora qui t'envoie, pas vrai?
Es-tu sûr qu'elle soit toujours la souveraine, hein? À l'heure qu'il est, Ildakar a dû tomber. »
Maxime ricana.
Figure-toi que j'ai neutralisé le sort de pétrification, histoire que l'armée d'Outros se réveille. En plus, j'ai vu une armada de galères remonter le fleuve, des Norukai. Au lieu de me poursuivre, tu aurais peut-être dû rester à Ildakar pour la défendre.
Non, parce que je tiens toujours mes promesses.
Le vent gagnant en puissance, les branches craquèrent sinistrement.
Ça devient assommant,
se plaignit Maxime. Je ne doute pas de ta détermination, mais face à moi, tu ne fais pas le poids.
J'ai confiance en mes capacités,
dit Adessa. Sans toucher à son épée courte, elle dégaina son couteau.
Pour te tuer, cette lame me suffira.
Le sorcier en chef eut un grand sourire.
Et comment comptes-tu faire?
Malgré toute leur magie, les sorciers pouvaient être tués quand on les prenait par surprise. Maxime ne venait-il pas de dire « assommant » Eh bien, c'était le mot juste. Sans quitter le sorcier des yeux, Adessa leva son couteau et, tranchant sur le côté, coupa la corde qui retenait l'épicéa qu'elle avait pliée à la force des poignets avec l'aide de la magie du sang. Avec une autre section de la corde, elle avait attaché le rondin en haut de l'arbre comme s'il s'agissait d'un balancier. Comme un ressort qui se détend, l'épicéa se redressa et propulsa vers Maxime le rondin mortel. Alerté par le bruit, le mari de Thora se retourna et eut tout juste le temps de voir foncer sur lui un bélier aérien assez lourd et rapide pour défoncer les portes d'Ildakar. Comme il n'avait pas songé à invoquer un bouclier dans son dos, une négligence qu'Adessa avait prévue, il ne fut pas assez rapide pour se protéger avant que le rondin le percute en pleine poitrine. Alors que son arme diabolique repartait en arrière, Adessa baissa les yeux sur Maxime. Étendu dans une flaque de sang, les yeux ronds de surprise, il avait le torse défoncé, mais il vivait encore très provisoirement, cela dit. Même avec toute la magie du monde, nul ne pouvait survivre à des dommages pareils. Quand le rondin eut cessé d'osciller, Adessa dégaina son épée courte et se pencha sur le moribond.
« La souveraine veut que je lui apporte ta tête, et je vais avoir le plaisir de lui obéir. »
Une main sur ses entrailles, Adessa pensa à l'enfant qui ne s'y trouvait plus et sentit en elle l'ombre de la présence de Yann. Oui, elle avait fait un grand sacrifice, mais ça en valait la peine puisque le sorcier en chef était vaincu. Cela seul comptait.
Je suis un sorcier,
parvint à dire Maxime entre deux gargouillis sanglants.
On ne me tue pas si facilement.
Qui te dit que c'était facile? Pourtant, je t'ai eu.
Le moribond plia les doigts comme s'il voulait lancer un sort, mais il ne lui restait plus assez d'énergie. Si elle ne se dépêchait pas, Adessa serait privée du meilleur de sa victoire.
« Non, Maxime, je ne te laisserai pas crever comme ça. Tu dois mourir de ma main. »«
De ta main ou non, je... »
Adessa battit sa lame. Ivre de joie, elle frappa jusqu'à ce que la tête du sorcier en chef se détache de ses épaules. Alors elle saisit son trophée par les cheveux et le brandit. Au moment précis de sa mort, une lueur aveuglante jaillit du corps de Maxime, inondant les épicéas et les broussailles. Dans la structure même de la magie, Adessa capta comme une rupture, la disparition des vestiges d'un très ancien sortilège peut-être. Grâce à ses runes, elle ne fut bien entendu pas affectée par le phénomène. Entre ses mains, Maxime, ou plutôt sa tête, n'était plus qu'un jouet. Un cadeau qu'elle rapporterait à Thora au terme d'un long voyage de retour. Mais avec son trophée pour compagnie, elle ne risquerait pas de s'ennuyer.